If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it. Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Cammeraygal de la nation Gurringai ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless, j'ai le plaisir de vous accompagner pendant cette heure d'émission en français. Au menu du jour, comme tous les mardis, on va faire le point sur la semaine politique en Australie avec un focus particulier sur la pénurie de logements. On écoutera également la première partie d'un long entretien sur le génocide rwandais réalisé par notre collègue Bertrand Tungandamé avec une spécialiste de l'Afrique, Michaela Wrong. Et puis, on ira aussi faire un point sur les activités prévues ce mois-ci à Melbourne et à Bendigo dans le cadre de l'Alliance française. Mais d'abord, place à l'actualité. C'est l'heure du journal. Les principaux titres de l'actualité de ce mardi 9 avril 2024. L'alliance AUKUS pourrait bientôt devenir JOKUS. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie étant favorables à l'intégration d'un nouveau membre, le Japon. Au Proche-Orient, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou affirme qu'une date précise a été fixée pour entamer l'invasion de la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza. Et puis en France, une marche blanche est prévue ce vendredi pour rendre hommage à Chemseddine, un collégien de 15 ans tabassé à mort il y a 4 jours, pour un motif totalement futile. L'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis ont indiqué qu'ils étaient favorables à l'intégration du Japon dans le cadre du pacte AUKUS. Un nouveau membre qui serait associé au deuxième pilier de cette alliance, c'est-à-dire au partage de technologies militaires et à la coopération dans différents domaines, comme par exemple l'informatique quantique ou encore l'intelligence artificielle. Pour le Premier ministre australien Anthony Albanese, le Japon est un candidat idéal pour rejoindre AUKUS.
Japan is a natural candidate for that to occur. We look at Pillar 2, that project by project approach is there. What is not proposed is to expand the membership of AUKUS.
Et les forces armées australiennes auront bientôt un nouveau chef. Le gouvernement a indiqué qu'à partir du mois de juillet, c'est le vice-amiral David Johnston qui prendra la tête des forces de défense australiennes. Une charge qui implique, selon ce dernier, de lourdes responsabilités.
I am very conscious of the responsibility that comes with the role, the strategic environment in which we face ourselves, and most particularly the responsibility I have to the extraordinary men and women in the Australian Defence Force and the families who support them. Thank you.
Interdire, comme dans l'Union européenne, la vente de véhicules thermiques à partir de 2035 en Australie, c'est la proposition formulée par le Climate Council, qui estime que grâce à cette mesure, les émissions générées par le secteur des transports pourraient être réduites de moitié, et ce, dès 2030. Cette organisation appelle également le gouvernement à en faire plus pour favoriser l'électrification des taxis, des VTC et des véhicules appartenant au gouvernement. Il les pousse également à encourager le transport du fret par le rail et à améliorer les transports publics ainsi que les aménagements piétons et cyclables. Cet appel intervient 2 semaines après que le gouvernement fédéral a présenté son projet d'introduire des standards d'efficacité énergétique pour les véhicules, l'Australie étant actuellement, avec la Russie, le seul pays développé au monde qui n'en a aucun. Une date précise a été fixée pour l'invasion au sol de la ville de Rafah. C'est ce qu'a annoncé Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, qui n'a toutefois pas révélé la date en question. Il a formulé cette annonce lors d'une allocation vidéo, et ce alors que des négociations portant sur un possible cessez-le-feu se tiennent en ce moment au Caire.
Today I received a detailed report on the talks in Cairo. We're working all the time to achieve our goals, primarily the release of all our hostages and achieving a complete victory over Hamas. This victory requires entry into Rafah and the elimination of the terrorist battalions there. It will happen. There is a date.
Les États-Unis, qui sont eux opposés à une telle opération militaire ciblant une ville où plus d'un million de Gazaouis sont réfugiés depuis le début du conflit, ont fait savoir par la voix de John Kirby qu'une proposition de cessez-le-feu avait été soumise au Hamas.
We're taking this very, very seriously, and we really want to come to closure on a hostage deal as soon as possible, because again, with that hostage deal comes a ceasefire of some weeks. Duration, hopefully around 6 weeks, which would do a lot to ease the burden on the Gazan people and to help us improve that humanitarian assistance.
En Ukraine, la centrale nucléaire de Zaporijjia, passée sous contrôle russe peu après le début de la guerre, est depuis quelques jours la cible de multiples attaques de drones. Tandis que la communauté internationale s'inquiète, Moscou et Kiev s'accusent mutuellement d'en être responsables. Explication Julien Chavanne pour RFI.
Comme à chaque fois, chaque camp se renvoie la balle. Ces 2 dernières années, la centrale de Zaporijjia, la plus grande d'Europe avec 6 réacteurs, a déjà été visée à plusieurs reprises, sans que l'on sache vraiment qui en est à l'origine. Ce lundi, la Russie a accusé l'Ukraine d'avoir lancé des drones kamikazes. L'un des dômes de la centrale aurait été touché. L'agence nucléaire russe parle de plusieurs blessés. Des mensonges pour les autorités de Kiev, qui jugent que ce sont les forces russes elles-mêmes qui attaqueraient le site avec des frappes simulées. Pour Ulrich Buna, expert en géopolitique, chercheur associé chez Open Diplomacy, la piste d'une manipulation russe est à privilégier.
L'objectif avec cette centrale de Zaporijjia a toujours été assez clair de la part des Russes. D'une part, bon, conquérir effectivement 25% des capacités de production électrique de l'Ukraine, mais d'autre part, effectivement, cette volonté russe d'instrumentaliser le nucléaire pour tenter de faire pression et sur la communauté internationale et sur l'Ukraine, ça c'est quelque chose qui se produit depuis le début de la guerre.
Quoi qu'il en soit, le jeu est risqué. L'Agence internationale de l'énergie atomique s'inquiète d'une escalade majeure qui menace directement la sécurité de la centrale.
Demain, mercredi, c'est jour d'élection en Corée du Sud et ce scrutin pourrait marquer un véritable tournant puisque cette année, les électeurs, pour la première fois dans l'histoire de ce pays, semblent décider à rejeter les 2 principales formations politiques au profit d'une 3e force menée par une figure controversée, l'ancien ministre de la Justice Cho Cook. Son portrait dressé depuis Séoul par Nicolas Roca pour RFI.
Cette élection est un référendum sur le président Yoon. Voici comment résumer la stratégie politique de Cho Cook qui assure vouloir faire du chef de l'État un canard boiteux puis un canard mort. L'ancien ministre démocrate a su imposer cette thématique au cœur de la campagne législative. Il faut dire qu'il nourrit un différend personnel avec l'actuel chef de l'État. Alors que Cho était en lice pour être candidat à la présidentielle, un scandale autour de faux documents pour permettre à sa fille d'être admise à l'université l'a contraint à abandonner. Il a été condamné à 2 ans de prison, notamment du fait de la ténacité du procureur chargé de l'enquête à l'époque, Yoon Suk-yeol. Il attend désormais la décision de la Cour suprême, mais même derrière les barreaux, Cho-kuk pourrait peser sur le destin de Yoon. Son parti de la refondation de la Corée est crédité d'une 20% d'intention de vote, au coude à coude avec les démocrates et les conservateurs, selon l'Institut de sondage Gallup. Le parti ne présente des candidats que pour les 46 élus à la proportionnelle. Il pourrait obtenir une dizaine de sièges, suffisant pour être une force centrale à l'Assemblée nationale. Cho-kuk pourrait se ranger dans l'opposition et faire de Yoon Suk-yeol le premier président à traverser son mandat sans majorité au Parlement. Nicolas Roca, Séoul, RFI.
Des millions de personnes au Mexique, aux États-Unis et au Canada se sont rassemblées il y a quelques heures pour observer une éclipse totale du soleil. Parmi eux, Timothy Wright, qui a suivi ce moment rarissime depuis Lakewood dans l'état d'Ohio.
It's pretty wild. You know, I saw things on the news, they were talking about it being celestial and things like that. But as you experience it, it feels kind of weird like that. I thought it was kind of hokey when they were talking about it, but then as it happened and you know, it was kind of neat. Like you feel like an invigoration or something. It's weird.
En France, une marche blanche va être organisée pour honorer la mémoire du jeune Shemseddine. Ce garçon de 15 ans a été battu à mort il y a 4 jours dans le sud de Paris alors qu'il rentrait du collège. Des milliers de personnes sont attendues vendredi pour lui rendre hommage. Pierre Olivier pour RFI.
C'est le maire de la ville qui a proposé à la famille de l'adolescent décédé d'organiser cette marche blanche. Une commémoration silencieuse, bienveillante, ouverte à tous, qui se tiendra dans les rues à proximité du collège où Shemseddine était scolarisé et dont il sortait lorsque les faits se sont produits. Tabassé dans un hall d'immeuble et laissé pour mort au sol par ses agresseurs. Une violence inouïe qui a stupéfait les habitants de Viry-Châtillon, surtout pour un motif aussi futile. Car l'enquête avance et on en sait plus sur le motif de l'agression. Dans la nuit de dimanche à lundi, 4 personnes ont été mises en examen pour assassinat. Parmi elles, 2 frères, l'un majeur et l'autre mineur, ont été écroués. À l'origine du passage à tabac, il y aurait la sœur de ces 2 frères. Elle aurait eu des conversations sur la sexualité avec Shemseddine et sa fratrie ne l'aurait pas supportée et aurait voulu laver son honneur. L'adolescente de 15 ans a elle aussi été présentée à un juge et mise en examen pour abstention volontaire d'empêcher un crime, car selon les enquêteurs, elle était au courant du projet de ses frères.
Et on termine ce bulletin d'information par un point rapide sur la météo de ce mardi en Australie. Soleil et 29 degrés attendus aujourd'hui à Perth, 19 degrés sous les nuages en revanche à Adélaïde, 16 degrés à Melbourne, 23 à Sydney où on attend quelques averses, ciel bleu pour Brisbane où il fera jusqu'à 29 degrés et le thermomètre montera même ce mardi jusqu'à 35 à Darwin.
Journal des sports, on débute avec du football et la 28e journée du championnat de football donc de France, la Ligue 1. Et les résultats, Lyon a battu Nantes sur le score de 3-1, Monaco Bahreïn sur le score de 1-0, match nul entre Reims et Nice 0-0. 0-0 c'est également le score entre Toulouse et Strasbourg, Montpellier bat Lorient sur le score de 2-0, le Paris Saint-Germain qui fait match nul contre Clermont Foot, le premier contre le dernier qui se finit par un match nul. Alors même si le Paris Saint-Germain est largement en tête avec une grosse échéance cette semaine avec l'équipe de Barcelone en Champions League, eh bien match nul 1-1 entre le Clermont Foot et le Paris Saint-Germain. On écoute Luis Enrique, l'entraîneur parisien.
Évidemment, nous avons des matchs importants à venir, mais nous n'avons toujours pas gagné la Ligue 1. En tant qu'équipe, nous voulons être en mesure de gagner chaque compétition. Nous devons donc bien jouer à chaque match.
Luis Enrique, l'entraîneur parisien. Les autres matchs, Brest bat Metz sur le score de 4-3. Match nul 1-1 entre Le Havre et Lens. Et Lille qui bat Marseille à Lille sur le score de 3-1. Ce qui n'est pas pour plaire au défenseur marseillais Jordan Veretout.
Aujourd'hui, on a été mauvais, faut pas se cacher, faut arrêter de trouver des excuses. On donne le match et à ce niveau-là, on n'a pas le droit. C'est beaucoup trop insuffisant ce soir. Ils nous ont baladés, on leur donne des buts, on n'a pas le droit. Quand t'es l'Olympique de Marseille et que t'as des ambitions, t'as pas le droit de, de faire le match qu'on fait ce soir. Et voilà, ce soir, ça, c'est une défaite qui fait très mal. Il faut arrêter de se cacher, il faut retourner au charbon et dès jeudi, parce qu'on a un quart de finale de Ligue Europa. Et si on joue comme ça, on se fera sortir.
Jordan Veretout, donc très pessimiste sur l'attitude des joueurs de Marseille en ce moment, à quelques jours d'une rencontre européenne. Au classement, le Paris Saint-Germain est toujours en tête avec 63 points devant Brest, 53 points. Monaco est 3e avec 52 points. Lille 4e et Nice 5e en bas de classement. Lorient est 16e, Metz 17e et Clermont, la lanterne rouge de ce championnat, est donc 21e. Du côté des femmes, les Françaises ont battu les Irlandaises dans les qualifications pour le championnat d'Europe. Le point avec Antoine Grenier.
Victoire 1-0 à Metz contre l'Irlande grâce à un but en début de match de l'attaquante du PSG, Marie-Antoinette Katoto. Début idéal des Françaises dans ces éliminatoires du championnat d'Europe. Les joueuses d'Hervé Renard qui profitent du nul entre la Suède et l'Angleterre pour prendre la tête du groupe 3 de la Liga. Prochain rendez-vous pour les Bleus dès mardi en Suède.
On part en Angleterre maintenant. On jouait la 32e journée de ce championnat. Et les résultats, Man City qui bat Crystal Palace sur le score de 4-2. West Ham qui bat les Wolverhampton sur le score de 2-1. Aston Villa et Brentford font match nul 3-3. Everton qui bat Burnley 1-0. Newcastle qui bat Fulham 1-0. Luton qui bat Bournemouth 2-1. Arsenal qui bat Brighton 3-0. Clash entre les deux super équipes de ce championnat, enfin deux des super équipes de ce championnat en tout cas, Liverpool contre Manchester United, 2-2. Liverpool qui avait du mal à battre Sheffield United dans la semaine, ils avaient pu vaincre les derniers, la lanterne rouge de ce championnat, vraiment dans les dernières minutes. Et bien là, match nul qui n'arrange personne, donc entre Liverpool et Manchester United, 2-2. Sheffield United justement fait match nul contre Chelsea, 2-2 également. Et Tottenham qui bat Nottingham Forest sur le score 3-1 au classement. Arsenal est toujours en tête à égalité de points mais différence de but devant Liverpool, tous les deux 71 points. Manchester City est 3e avec 70 points, Tottenham 4e avec 60 points et Aston Villa est 5e avec 60 points. En bas du classement, c'est Sheffield United, je vous le disais, qui est la lanterne rouge de ce championnat. Un détour par le cyclisme pour conclure ce journal des sports. Vous avez peut-être entendu dans le courant de la semaine dernière, un nombre énorme de chutes a eu lieu dans le groupe et le peloton international, ce qui n'a pas empêché la très belle victoire de Mathieu Van Der Poel à Paris-Roubaix ce dimanche et la victoire de Lotte Kopecky dans le Paris-Roubaix femmes samedi. Les deux champions du monde ont donc remporté Paris-Roubaix. Mais si on reparle les chutes, un avis, celui de Marc Madiot. On sait que c'est quelqu'un qui a toujours un avis sur la question, surtout quand il en vient du cyclisme. Et Marc Madiot nous explique les raisons pourquoi il pense qu'il y a tellement de chutes et des chutes plus ou moins gravissimes dans le peloton professionnel ces temps-ci.
Moi, je propose déjà qu'on enlève les oreillettes, qu'on cache les capteurs de puissance. Les freins disent que c'est parfait, c'est efficace, mais ça freine trop brutalement. Moi, je reviendrai aux anciens freins, mais vous verrez, rien que ça, c'est inenvisageable, inenvisageable. Vous allez avoir les directeurs sportifs qui vont gueuler parce qu'ils vont plus avoir les oreillettes. Vous allez avoir les coureurs qui vont pas être contents parce qu'ils ont plus le nez sur leur capteur de puissance qui leur donne les watts et le cheminement qu'ils doivent avoir. Et vous avez les organisateurs qui ont envie quand même de passer dans certains endroits, et puis etc., etc. Et les constructeurs de cycles qui n'ont pas envie d'abandonner le carbone parce que c'est une affaire très rentable. Et vous additionnez le tout, et puis vous avez la situation actuelle. Est-ce qu'il y a une volonté générale et globale de changer ? Je suis pas sûr du tout.
Voilà l'avis de Marc Madiot. C'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez Le Français sur Radio SBS. À tout de suite.
Vous êtes sur SBS, c'est l'émission en français et il est 13h quasiment 23 minutes. Tout de suite, on fait une courte pause et puis on revient juste après avec la semaine politique en Australie vue par ma collègue Patricia Meunier. Elle se penche cette semaine sur la pénurie de logements qui frappe actuellement l'Australie.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Allez, semaine politique, comme chaque mardi notre programme, la pénurie de logements en Australie qui fait souffrir une grande partie de la population. La dérégulation sur le marché de l'immobilier pourrait même encore s'aggraver. Everybody's Home, une campagne nationale sur le logement, a été lancée. Une nouvelle enquête pour mieux comprendre les enjeux de cette crise sans précédent. Les explications de Patricia Meunier.
La crise du logement en Australie ne cesse d'empirer. Certains partagent un logement, d'autres sont retournés vivre chez leurs parents ou ont dû opter pour le camping. En cause, une trop forte demande de logements face à une pénurie d'offres. Des milliers de ménages à travers le pays sont confrontés à de graves problèmes de location. Everybody's Home, la campagne nationale sur le logement, a donc lancé une nouvelle enquête. Elle va récolter les témoignages de locataires, de propriétaires sous pression avec leurs prêts hypothécaires et des services d'aide aux sans-abri. On écoute la porte-parole de la campagne, Maï Aziz.
Australia is in the midst of the worst housing crisis that we've ever had. We've got hundreds and hundreds of thousands of households across the country in the most severe rental stress. There's 640,000 households. Who are not just in rental stress, but the most severe, dire rental stress that really puts them at risk of becoming homeless. We've got median house prices in major cities like Sydney, so expensive, that you actually need to be on an income over $200,000 to get a loan. And we've got rents that have surged, asking rents that have surged by 75% since we started the pandemic. So this is truly a crisis.
Si on analyse les derniers chiffres, on s'aperçoit que la crise du logement pourrait encore s'aggraver. D'autant plus que le nombre de nouvelles constructions diminue. Selon les statistiques du gouvernement, le taux d'approbation de nouvelles constructions est encore 40% en dessous de son objectif. Les chiffres sont très parlants. L'an passé, l'île continent affiche une croissance démographique de 660 000 habitants et une augmentation nette de logements de seulement 156 000. L'ancien sénateur travailliste de la Nouvelle-Galles du Sud, Doug Cameron, un des co-commissaires de l'enquête aux côtés du professeur Nicole Guerin de l'Université de Sydney, affirme que le logement est un bien de première nécessité.
It should be treated as important infrastructure. It shouldn't be treated as simply an area for wealth creation for those who can buy into the housing market. And this is a huge problem. And unless we deal with it, we're going to have people trying to enter a failed housing market. And when the market, apparently according to neoliberal policies, when the market fails, there should be government intervention. I don't think there's been enough government intervention. I don't think there's been enough focus on public housing. I don't think there's been enough focus on social housing.
Selon le professeur Al Pawson de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, la forte perturbation du marché immobilier est due en grande partie à la pandémie de COVID-19.
The cost of a home has gone up 50% in the last 4 years, which is really, even in Australia where house price inflation is often quite high for periods, that's quite a high level. But even more surprising, I think, or more striking, is that rents have also risen by around 50% since March 2020 or the beginning of COVID. And that's putting a lot of people under pressure.
Parmi les autres causes du problème, le marché de la location en Australie manque de réglementation. Les conditions sont carrément à la traîne par rapport au reste du monde. Par exemple, réduire la liste des circonstances qui permettent aux propriétaires de résilier un bail pourrait offrir plus de sécurité aux locataires. Mais le salut est ailleurs, il s'agit avant tout d'augmenter l'offre de logements à prix abordable afin de soutenir les personnes à faible revenu. On écoute encore le professeur Pawson.
And that is something which again is beginning to happen through the Housing Australia Future Fund, the federal government's social housing and social and affordable housing investment initiative. So that is getting underway at the moment, but it will take some time to come into effect, and even then it's too little. It needs to be both extended and expanded, I think, to really meet the size of the challenge which exists.
L'arrivée de nouvelles constructions sur le marché va encore prendre du temps. Dans l'intervalle, ceux qui peinent à boucler les fins de mois vont encore souffrir quelque temps.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Il est maintenant 13h31, vous êtes toujours sur SBS, c'est toujours l'émission en français. Tout de suite, on fait une petite pause publicitaire et puis juste après, on retrouve notre collègue Bertrand Tongandamé pour un entretien sur le génocide rwandais dont on vient de commémorer le 30e anniversaire. Il a échangé avec une experte, la journaliste et auteure britannique Michaela Wrong.
Michaela Wrong, vous avez travaillé en tant que journaliste en Afrique pendant 3 décennies pour la BBC, le Financial Times et Reuters. Et vous êtes devenue l'une des grandes spécialistes sur le continent. Vous avez d'ailleurs publié plusieurs ouvrages sur différents pays africains, dont des ouvrages sur le Rwanda, je vais en citer 2. Do Not Disturb, The Story of a Political Murder and an African Regime Gone Bad. Il y a aussi Assassins sans frontières, enquête sur le régime Kagame. Dans notre entretien, nous aurons l'occasion de revenir sur ces ouvrages, mais nous allons surtout parler de votre prochaine visite en Australie en marge du 30e anniversaire du génocide des Tutsis. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur SBS French.
Merci. Bonjour.
Lors de votre prochaine visite, plutôt tournée en Australie, vous allez vous rendre dans différentes villes du pays. Et vous avez été notamment invité par la Fédération des communautés rwandaises d'Australie lors de leur commémoration des 30 ans du génocide. Un événement significatif car il va honorer la mémoire de toutes les parties prenantes pour partager des récits de résilience et de guérison et pour éclairer l'impact du génocide et du parcours vers la guérison. Pouvez-vous nous éclairer sur la signification de cette commémoration?
Pour les anniversaires, je pense qu'ils représentent une opportunité pour penser aux disparus, pour faire un deuil. Mais aussi, il faut accepter qu'il y a toujours un côté politique. C'est aussi un moment de statecraft, si on peut appeler ça. Aujourd'hui, on voit qu'il y a plein de dignitaires, de VIP, de politiciens. Il y a l'ancien président américain, Bill Clinton. Il y a notre Development Secretary ici en Angleterre, Andrew Mitchell. Il y a le président israélien qui sont tous dirigés vers Kigali et ils arrivent là-bas et ils ont déjà posé des gerbes au Genocide Memorial. Alors c'est aussi un moment politique, il faut l'accepter. C'est pas seulement un moment de commémoration.
C'est donc un moment solennel, un moment éminemment politique, mais comment cet événement de partage d'histoire vécue va-t-il aider des survivants du génocide à trouver la résilience, à partager leur parcours vers la guérison?
Bon, chacun a suivi son chemin particulier. Je pense que beaucoup de Rwandais ont fait un gros effort. Ceux qui habitent au Rwanda, c'est la plupart, ont dû faire vraiment un gros effort parce que on sait que grâce à Gacaca, le processus de justice qui a eu lieu au Rwanda, que souvent il y a les gens qui ont été des génocidaires, qui maintenant habitent, ils ont passé des années en prison et maintenant ils habitent encore une fois chez eux, sous les collines, et souvent ils habitent à côté des familles qui ont subi leur crime. Et je pense que les Rwandais, ils ont accepté que c'est nécessaire, que la justice, une fois que c'est fait, la justice, il faut accepter que ces personnes font partie de leur communauté, les accepter et vivre à côté. Ce que je pense reste toujours un problème quand même, c'est qu'on est très conscient qu'au Rwanda d'aujourd'hui, il y a eu ce processus et c'est très correct que les génocidaires ont passé des années en prison, mais en même temps, il y a aussi eu des crimes commis par le FPR après qu'ils ont envahi le pays et pendant le génocide et aussi surtout après au Congo, République démocratique du Congo. On sait qu'il y a eu beaucoup de crimes, des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts, parmi la communauté Hutu et c'est pas accepté au Rwanda d'aujourd'hui de parler de ces morts. Alors il y a un manque de c'est pas équilibré, hein, il y a un manque de justice et je pense que ça reste un gros problème pour le Rwanda d'aujourd'hui parce que faut accepter qu'il y a eu des morts des deux côtés, il y a eu des crimes des deux côtés. Sinon, on ne va jamais voir une vraie réconciliation ethnique.
Justement, au niveau international, on a salué le système des tribunaux traditionnels Gachacha, dont on les a salués d'avoir permis aux coupables de cohabiter avec leurs victimes au niveau local. Cependant, il y a un aspect de justice à un niveau international où toutes les parties au conflit doivent être jugées pour des crimes graves, des crimes de guerre, des violations des droits de l'homme les plus graves. Cependant, au niveau de cette même communauté internationale, on s'aperçoit que cette communauté ne s'est focalisée qu'à juger une seule partie au conflit, alors que l'autre partie semble jouir d'une totale impunité.
Ce qu'on voit, je pense, c'est « victor's justice ». Le danger, le risque avec victor's justice, la justice pour les gagnants, c'est aussi que ça devient la réconciliation des gagnants. Et ça, c'est pas une vraie réconciliation parce que ça laisse un goût amer. Et je pense que c'est très difficile de savoir ceux qui pensent un Hutu ordinaire dans une commune. Sur une colline à l'extérieur de Kigali. Mais ce qu'on sait, il y a eu des citizens bloggers, des journalistes qui ont souvent dit en public, écoute, mon grand-père, ma grand-mère, ma tante, ils ont été assassinés par le FPR avant le génocide, pendant le génocide, et ils sont tous en tôle maintenant. Ces gens-là, on les a accusés de genocide denial, de nier le génocide, et ils vont passer beaucoup d'années maintenant en prison. On voit qu'on utilise cette accusation de négationnisme, on le lance même contre des Tutsis qui ont perdu des membres de leur famille Tutsi pendant le génocide, et s'ils osent parler de l'autre côté, et de ces tueries de Hutu, eux aussi, ils ont été accusés de négationnisme et ils sont passés en prison. Et il y a un cas très bien connu qui est le cas de Kizito Mihigo, qui était le chanteur très, très célèbre, très, très, très respecté, qui a commencé à un certain moment dans ses ouvrages, dans ses chansons, de parler de reprisal killing, que c'est le terme qu'on utilise pour décrire les assassinats commis par le FPR. Il a perdu son poste. Il s'est trouvé en prison, accusé d'être négationniste, mais aussi d'être avec les insurrectionnistes, les terroristes.
Il a fini par perdre sa vie. Hein?
Oui, effectivement, il a été amnistié et pardonné par le président. Mais après, il a essayé de fuir le pays. Il s'est fait arrêter et il est mort en prison. Et bon, c'est un mort très suspect. Pour moi, c'est un cas typique du fait que même si on est un Tutsi, lui, il avait perdu des membres de sa famille pendant le génocide, mais il disait, pour avoir la paix dans ce pays, il faut reconnaître qu'il y a aussi eu des crimes commis par le FPR.
En mentionnant Kizito Mihigo, eh bien, cela nous permet de faire certaines connexions à la France et à l'Australie, car si ma mémoire est bonne, à un certain moment, Kizito avait trouvé refuge dans la zone turquoise, une zone qui avait été mise en place par l'armée française pour protéger les gens qui fuyaient les génocides et les massacres. La protection de cette zone a été ultérieurement confiée à une force des Nations Unies dont faisait partie un contingent australien. Et on se souvient que cette zone a été, le camp déplacé, a été démantelé dans un bain de sang par l'APR, l'armée patriotique rwandaise, l'armée du FPR devenue armée gouvernementale et en présence du contingent australien. Pour revenir à l'événement où vous allez participer pour commémorer le génocide, cet événement va aussi honorer la communauté internationale, notamment la participation humanitaire de l'Australie. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette participation de la communauté internationale et l'honneur aux troupes qui ont porté secours aux populations?
C'est une histoire très compliquée pour l'Australie. Je trouve le rôle qu'ils ont joué, c'est important, surtout pour ce massacre à Kibeho, parce que les peacekeepers australiens étaient témoins d'un gros massacre. On pense qu'il y a eu 8000 personnes tuées du Hutu, déplacées, tuées par... À l'époque, c'était l'armée rwandaise sous les ordres de Kagame. Et les peacekeepers australiens ont témoigné, ils ont écrit là-dessus. L'Australie sait très bien ce qui s'est passé à l'époque. Si on regarde un peu plus en gros, moi, je trouve que c'est bizarre parce que ce qu'on voit, c'est un homme fort, Kagame. Je vraiment pose un problème maintenant au niveau géostratégique dans les Grands Lacs parce que il soutient un groupe rebelle qui est le M23, le mouvement 23, qui sème le désordre au Congo de l'Est. Il a des très mauvaises relations avec ses voisins, Ouganda et le Burundi, et surtout le Congo. Quand même, malgré tout cela, il se présente et les Occidentaux, sauf les Américains, ils ont tendance à accepter que Kagame, c'est un homme fort qui mène la stabilité et la paix. Et je trouve que c'est complètement contradictoire, ça n'a pas de sens. Ce que je vois récemment, c'est que la relation de Kagame avec la France devient de plus en plus forte. Et je pense que la France fait plein d'erreurs là-dessus. Et c'est une politique très, très cynique de la part de Paris. Mais avec les Américains, vraiment, les relations entre le Rwanda et les États-Unis, ils sont très mauvais maintenant. C'est intéressant qu'il y a eu Bill Clinton qui s'est présenté à cette commémoration, mais Blinken ne va pas être là-bas. Là, Biden non plus. Et je pense que les relations entre ces deux pays sont très tendues maintenant. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelques pays, le Royaume-Uni, c'est un de ces pays, la France, c'est l'autre, qui ont décidé que Kagame, c'est un partenaire très important, un allié absolument essentiel, mais les Américains ne partagent pas cette opinion.
Et on arrive maintenant dans la dernière partie de notre émission. On va retrouver Christophe Mallet pour un échange avec Marion Nouvelle de l'Alliance française de Bendigo.
Allez, dans le programme aujourd'hui, on va parler des activités, alors non pas de l'Alliance française de Melbourne, mais de l'Alliance française de Bendigo, mais il y a un lien. On est avec Marion Nouvelle. Bonjour Marion.
Bonjour.
Alors, il y a un lien entre l'Alliance française de Melbourne et l'Alliance française de Bendigo. Ce lien, bah, c'est vous, en fait, au final.
Oui, en fait, il n'y a pas vraiment d'Alliance française de Bendigo. C'est moi, l'Alliance française de Bendigo. C'est l'Alliance française de Melbourne. Et étant donné que j'ai déménagé... à Bendigo il y a 2 ans, c'était l'occasion de développer les projets de l'Alliance française de Melbourne à Bendigo et dans la région.
Alors, on parle là aujourd'hui de ce qui se passe à Bendigo, mais on va élargir bien sûr sur ce qui se passe sur Melbourne et le Victoria. Mais c'est important Bendigo en ce moment, en tout cas pour vos activités, puisqu'il y a cette exposition sur la Belle Époque dont on a déjà parlé dans le programme. D'ailleurs, il y a une interview avec la conservatrice de cette exposition à voir sur notre site internet. Mais vous, à l'Alliance française donc de Melbourne/Bendigo, vous avez des activités autour de cette exposition?
Tout à fait. Donc, on est partenaire de l'exposition. Et j'ai travaillé avec eux d'abord pour développer des activités à la fois pour les professeurs de français du Victoria et leurs élèves. Et donc, par exemple, le 20 avril, on organise une session de développement professionnel pour les professeurs du Victoria à la galerie, ou juste à côté, de Bendigo, pour parler de la Belle Époque et comment faire entrer la Belle Époque en classe de français. Et ensuite, les professeurs peuvent aller eux-mêmes visiter l'exposition ou amener leurs élèves pour visiter cette exposition. Et j'ai créé également un livret d'accompagnement que les élèves peuvent utiliser pendant qu'ils visitent l'exposition.
Et à quel point c'est important justement de... parce que c'est vrai que la Belle Époque, bon, ça englobe beaucoup de choses, hein, mais c'est un moment dit quand même dans l'histoire française. Mais à quel point c'est important de, en gros, de recadrer justement cette époque pour les étudiants?
Mais c'est vrai que c'est une période à la fois qui est très importante, que les gens connaissent en général de nom, quand on dit la Belle Époque, on connaît, mais les élèves de français, en général, savent très peu de choses sur cette période historique. Ils parlent souvent de la Révolution ou de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale. Et cette période, c'est une période qui est très, très riche en termes de développement économique, artistique. Il y a eu toutes les expositions universelles à Paris, qui ont vu beaucoup de développement technique, technologique, artistique, la construction de la Tour Eiffel, de beaucoup de tous les ponts un petit peu célèbres que l'on connaît à Paris datent de cette époque pour beaucoup, et le développement du métro, etc. Et à côté de ça, tout un côté artistique aussi qui peut être intéressant pour les élèves sur Montmartre et les artistes comme Toulouse-Lautrec, etc. Et les élèves, en général, ne connaissent pas du tout cette époque. Donc ça, c'est pour nous intéressant de leur montrer que c'est une époque qui vaut la peine d'être étudiée et qui peut être aussi très intéressante à voir en classe.
Et c'est un certain pari qui sera peut-être mis en avant au mois de juillet, pendant les JO aussi, parce que c'est une période historique de Paris qui représente bien le côté festif de la ville.
Exactement. C'est une période historique, comme je disais, qui a vu la naissance de la Tour Eiffel, et donc c'est toujours un symbole. Les Champs-Élysées aussi, le développement de la vie mondaine sur les Champs-Élysées à cette époque. Donc c'est un pari qui fait rêver. Un pari qu'on espère retrouver en juillet pour les Jeux Olympiques.
Absolument. Alors parlez-nous un petit peu des activités en détail, de ce que vous faites avec l'Alliance française autour de cette exposition, et puis ce que vous avez d'autres aussi, parce qu'il y a aussi un mini-festival, on va en parler.
Tout à fait. Donc à Bendigo, avril, mai, juin, c'est vraiment, et même juillet, c'est très très axé sur le français. Donc la ville de Bendigo a même organisé tout un programme de Bonjour Bendigo, avec des activités d'inspiration francophone et francophile. Nous, donc, on participe en organisant, comme je disais, cette activité de développement professionnel pour les professeurs de français, mais aussi on organise une session de conversation en français à la galerie au mois de mai, pour les gens qui seraient intéressés d'apprendre quelques bases en français, mais aussi de découvrir des faits intéressants sur la ville de Paris. L'organisation de Paris en arrondissement avec la forme de l'escargot, par exemple, ça c'est quelque chose qui est montré dans l'exposition et qui a déjà intéressé beaucoup de personnes, donc on va parler un petit peu de ça. Donc toutes les personnes qui sont débutantes en français et qui voudraient en savoir plus sur la ville de Paris peuvent venir à cette activité de conversation au mois de mai. Et comme on le mentionnait juste avant, oui, en avril, le week-end du 19, 20, 21 avril, on organise avec le cinéma Star à Eagle Hawk, qui est une petite ville juste au nord de Bendigo, 3 jours de French Film Festival à Bendigo. Ça fait quelques années que ça se fait. Et c'est toujours très populaire, donc c'est le vendredi, samedi, dimanche, avec en film d'ouverture D'Artagnan, le même qu'on a eu à Melbourne, et ensuite 3 films le samedi et 3 films le dimanche.
D'accord, et D'Artagnan qui vaut d'ailleurs, il faut voir la suite, j'espère que la suite est montrée, j'espère que vous montrez les deux épisodes à Bendigo, parce que ça vaut vraiment le coup de voir le 1 et le 2.
Tout à fait, le 2 est proposé le samedi, donc si les gens veulent voir les deux, comme ça, ils peuvent voir D'Artagnan le vendredi soir et Milady le samedi après-midi. Et pour les personnes qui auraient manqué le festival du film à Melbourne, parce que finalement, c'est ce soir, le 2, aujourd'hui, c'est la fermeture, la clôture du festival, mais il y a encore toutes les séances encore pendant une semaine, donc on a encore la possibilité de voir les meilleurs films pendant une semaine à Melbourne.
Voilà, le best-of choisi par vous, d'ailleurs les personnes de l'Alliance française de Melbourne, je crois.
Tout à fait. Donc, ont été choisis les films qui ont très bien marché. Mais également, l'équipe a gardé deux autres films en plus qui est All Your Faces et The Sitting Duck. Moi, je vous avouerai que je ne les ai pas vus, mais j'en ai entendu que du bien. Et l'équipe a considéré que ces films étaient vraiment excellents et très informatifs, très éducatifs. Et donc, ils ont été également conservés pour les séances encore.
Voilà, toutes les informations, je suppose, sont sur votre site internet de l'Alliance française de Melbourne.
Tout à fait. Et également, si vos auditeurs veulent en savoir plus et avoir toutes ces informations, la meilleure manière, c'est de s'inscrire à la newsletter, la Minute de l'Alliance française, qui va partir cette semaine avec toutes les informations des activités à venir. On a aussi une nouvelle session de cours qui commence la semaine prochaine, à la fois en ligne. Donc moi, par exemple, habitant à Bendigo, j'enseigne en ligne. Mais aussi à Melbourne, bien sûr. Donc, si les familles de tous les auditeurs veulent commencer à apprendre le français ou continuer à apprendre le français, ça commence la semaine prochaine pour la nouvelle session.
Absolument. Merci Marion.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Vous êtes passionné de films ? SBS On Demand a des centaines de films disponibles, visionnables à n'importe quel moment. Pour le meilleur des films dramatiques, des documentaires, des films d'horreur, des comédies et des films d'amour, allez sur sbs.com.au/on-demand.
Mais les disputes, ce n'est pas cher payé. Si je peux te ensuite surveiller. L'homme idéal, c'est moi.
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et merci encore plus pour votre fidélité. On se quitte sur un morceau de Bertrand Burgala qui s'intitule « L'homme idéal ». Notre prochain rendez-vous en direct, ce sera jeudi à 13h. Et d'ici là, je vous rappelle que vous pouvez continuer à nous écouter gratuitement et à n'importe quel moment en podcast. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de vous abonner à notre chaîne SBS French sur votre application audio préférée. Passez un excellent après-midi et à très bientôt.
Jamais n'ai-je tenté le harcèlement. Ici, on fait de l'harcèlement.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.